Matthieu 24. Matthieu 24, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Et il évoque la destruction d'Israël, destruction de Jérusalem, pardon, qui est arrivé à l'an 70. Et Jésus en parle déjà à ce moment-là, au sortir du temple. Dans le verset premier, il dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent et pour lui en faire remarquer les constructions. » On parlait du mur, le cotel, hein, vous voyez. Voilà l'histoire où Jésus lui-même parle de ses constructions du temple de Jérusalem. Mais il le répondit, voyez-vous tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ce qui est arrivé en l'an 70, et en fait, c'est juste ce mur qui est resté jusqu'à présent. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé pour lui dire, dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. À la fin du monde, ça fait partie des questions existentielles que chaque homme se pose. Est-ce qu'il y a une fin? Bon, on sait que pour nous, il y a une fin, mais est-ce qu'il y a une fin du monde? Voilà. Et c'était le cas aussi des disciples qui ont demandé cela à Jésus. Voilà ce que Jésus a répondu au verset 3, verset 4. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est intéressant de cette réponse immédiate de Jésus. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire que sa parole est absolument sans erreur. Et c'est intéressant de voir comment Jésus répond immédiatement. Il dit, prenez garde, voyez-vous. Donc la première chose qu'il faut, avant d'attendre une réponse claire, rationnelle, comme on aime tout savoir, Jésus dit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Ça veut dire que la séduction est l'un des critères majeurs de la fin du monde. Et c'est ce qui a poussé Michel aussi à vous parler de cette manière, parce qu'on sent effectivement combien le monde veut reprendre les enfants et déjà instiller cette séduction, cette confusion dans leur esprit. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi ». Qui suit le Christ, et ils suivront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, etc. On va s'arrêter là, parce que je ne voudrais pas rentrer dans la suite ce matin, d'autant plus que je n'ai pas énormément de temps. Je voudrais vous parler du début de cette réponse de Jésus, où il dit « prenez garde, afin que personne ne vous séduise, plusieurs viendront mon nom, et c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens ». Auparavant, je voudrais lire aussi un passage dans 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 21. L'apôtre Paul dit dans tout un ensemble de recommandations, au verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, etc. Et il dit au verset 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voyez-vous, là, il fait appel à une forme de raison qui est soumise à l'Écriture, où nous sommes censés examiner les choses. Avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, avec l'aide de la parole, et de garder, de retenir ce qui est bon. Et un dernier passage, mais que vous connaissez par cœur, c'est Éphésiens 4, 10, qui parle des ministères, où il est question, au verset 11, des dons qui sont donnés à l'Église, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et je voudrais insister sur le but. Pourquoi Dieu donne ces dons-là? Eh bien, il les donne pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification et du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà. C'est dans cette perspective que je comprends mon ministère auprès de vous. C'est de vous aider à entrer dans la compréhension des choses que nous vivons aujourd'hui, donc d'actualiser notre foi dans notre société actuelle, et Michel aussi l'a fait de son côté, pour que vous soyez édifiés, que vous puissiez marcher de progrès en progrès, et à la fin, eh bien, quand le Seigneur va dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », que vous puissiez être non pas dans la séduction, mais dans la foi au Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée. Seigneur, tu as dit « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point ». Et nous l'avons ouverte ce matin et nous aimerons la comprendre avec l'aide de ton esprit. Alors Seigneur, merci de nous accorder ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais conclure mon message sur une compréhension de certains rassemblements. J'en parlerai de trois, hein, mais il y a beaucoup d'autres rassemblements, de rassemblements mondiaux, globaux, qu'on appelle ça maintenant, enfin, les Américains appellent ça global gatherings, voilà, des rassemblements globaux, pour vous aider à discerner, quand vous êtes dans ces rassemblements, à bien savoir sur quel fondement vous êtes par rapport à l'Écriture. Nous allons envoyer trois personnes, mais c'est des personnes qui nous représentent en tant qu'Église à Jérusalem, donc entre le 7 et le 11, ou enfin, vous restez jusqu'au 13 novembre, je crois. Voilà, dans un global gathering. Et voilà, on est encore en discernement, c'est pour ça que j'ai proposé que les personnes qui y aillent, ce sont ceux qui étaient déjà à Munich, pour bien s'assurer que ce qui est enseigné, ce qui est, disons, proclamé, et ce qui est vécu, soit conforme à l'Écriture. Parce que si nous entrons dans ces ministères, ça va nous prendre du temps, de l'argent, voilà. Et nous avons besoin de bien discerner ce qui est bon et ce qui est conforme à la parole. Alors je voudrais juste vous parler d'un paradoxe, parce que moi je suis comme vous, hein, je pensais qu'au départ le christianisme est simple. C'est vrai qu'il est simple dans le sens où Jésus est mort et ressuscité, donc ça c'est simple. Mais ensuite, l'exercice de la foi dans ce monde nous met dans une situation où il y a tellement de croyances, tellement de messages, que il est difficile ensuite après de discerner et de rester sur une foi qui est solide, parce que l'ennemi fait tout pour fragiliser notre foi. Et pour cela, j'ai été interpellé par un colloque qui a eu lieu à Vaux-sur-Seine, et pour certains qui le veulent, je peux vous donner le DVD, je ne l'avais pas écouté, et parce que souvent je vais à ces colloques, et là j'y étais pas, qui parlent du surnaturel. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde cherche dans le surnaturel. Nous sommes dans le XXIe siècle, qui est spirituel, et tout le monde cherche à comprendre le surnaturel. Ça va des extraterrestres à tout le reste. Et il y a un enseignement qui m'a interpellé, c'est le paradoxe entre la nature... la nature dont nous faisons partie de la nature. Nous sommes un être créé qui est biologique déjà, qui est ensuite psychologique et aussi spirituel. Et cette nature, donc, Dieu nous a créés pour dominer sur la nature. L'être humain a été créé dans le jardin pour qu'il domine. Et un des éléments de domination, c'est donner des noms aux animaux, comme Adam l'a fait, qui montrent la supériorité de l'homme à l'animal. Mais parfois, l'homme se conduit comme un animal, parce que justement, il ne comprend pas et ne vit pas la dimension de la surnature. Donc, surnature. Surnaturel. Et je n'avais pas réalisé que que ces deux éléments, hein, donc on cherche le surnaturel, parce que l'être humain, il y a quelque chose au fond de lui qui, Augustin le disait, qui est en forme de Dieu, un vide en forme de Dieu. Donc l'être humain cherche son origine et il sait au fond de lui qu'il vient de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et le fait de le refouler, eh bien, ça ne fait que sortir autrement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au XXIe siècle. Malgré les progrès scientifiques et technologiques, l'être humain cherche autre chose que la nature. Et toute la difficulté consiste à, disons, résoudre ce paradoxe qui consiste en fait que l'homme, au fond de lui, cherche quelque chose qu'il n'arrivera jamais à atteindre par lui-même. C'est ça le paradoxe. Au fond de lui, il sait que Dieu existe, alors même s'il dit qu'il n'existe pas, il le sait, et il cherche au fond de lui à trouver cette relation, mais qu'il n'arrivera jamais à l'avoir. Pourquoi ? Parce que Dieu, le Dieu que nous connaissons, hein, pas le Dieu panthéiste, le Dieu, eh bien, il est le tout autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être mélangé avec la nature. Donc notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le tout autre, hein, qui, en fait, ne peut pas se mélanger avec la nature. Donc nous, les humains, nous avons cette soif de connaître Dieu, mais nous ne pourrons jamais le connaître par nous-mêmes. Si nous cherchons à le connaître par nous-mêmes, ben, nous tombons effectivement dans toutes les formes de panthéisme, c'est-à-dire un Dieu qui est selon notre humanité, selon notre nature. Donc il y a ce paradoxe qui est là, et toute l'histoire chrétienne se résume à chercher à résoudre ce paradoxe. Et ça, je ne savais pas que c'était aussi fort. Et donc Henri Blocher explique ça de manière assez, assez facile, mais assez forte. Alors, revenons à beaucoup de confusion aussi parmi les chrétiens sur qui nous sommes. J'en ai parlé cette semaine au DTQP. Quand nous prenons la Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7, si vous prenez ce passage qui est très simple, il est dit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. Et il en fit un être humain. Donc la poussière de la terre, donc si on dessine l'homme de cette manière-là, donc il en fit de la chair, hein, qui en hébreu est bazar, hein, ou sarx en grec. Hein. Donc l'être humain, c'est la chair. Donc la chair représente ce que nous sommes formés à partir des molécules, hein, de la nature. Et il souffla dans cet être. Alors, je pensais avoir du rouge, mais je vais quand même voir si je trouve une couleur rouge. Bon, j'ai du vert, ça fera l'affaire. Et il souffla dans cette chair un souffle de vie. Un souffle de vie. Voilà. En grec, c'est neshama. Neshama. Donc Dieu souffla dans cet être un souffle de vie. Le problème des différentes civilisations dont je vous ai parlé, grecques, égyptiennes, et donc Sem, Jam et Japhet, ils ont cherché ce qu'on appelle la métaphysique, au-dessus de la physique, au-dessus de la nature, ils ont cherché à décrire l'être humain, mais différemment de ça. Et les Grecs, par exemple, ils disent que l'être humain, c'est un corps, une âme et un esprit. Et à partir de là, ça nous amène dans la confusion. Alors, Paul l'utilise, vous me direz, mais Paul l'utilise pour s'adresser aux Grecs qu'il est en train d'évangéliser, et Jean pour contrer les gnostiques. Mais ce qu'il faut se retenir, c'est ça. C'est d'ailleurs les Juifs, ils disent que l'homme est un, comme Dieu est un. Vous voyez, on ne peut pas le découper en morceaux. Et c'est vrai que si vous voulez découper l'être humain, vous aurez du problème à le recomposer après. Donc en fait, l'être humain est chair et il y a un souffle de l'esprit. Le véritable traduction, c'est le respire. Hein, le respire. D'ailleurs, on dit qu'on donne son dernier souffle hein, quand on meurt. Donc on donne le souffle qui revient à Dieu. Donc la vie qui seule est en Dieu, hein, aujourd'hui les scientifiques le cherchent dans l'eau, hein, dans la nature, mais la Bible dit que seul Dieu a la vie. Il y en a qui croient ça ? La vie seule est bien seule de Dieu. Donc cette vie appartient à Dieu, elle appartient pas à ça. Mais l'homme veut chercher Dieu par lui-même. Et c'est ça le problème, et c'est impossible. C'est impossible, parce que Dieu se manifeste, et c'est ce qu'on appelle la grâce, et la grâce ne peut pas être due à l'homme. Si elle vient de Dieu, elle est grâce toute seule. Elle est une grâce libre, sinon c'est plus une grâce. Si l'homme exige que la grâce lui est due, en fait, il oblige Dieu à se manifester à lui. Non, Dieu est toute grâce et se manifeste à l'être humain. Voilà donc ce qu'on appelle l'anthropologie de l'homme, selon la Bible, qui explique comment ça se passe. Alors, quand vous voyez, par exemple, dans 1 Corinthiens 1:27, vous comprenez ce paradoxe, parce que Dieu l'a fait exprès, il a fait exprès ce paradoxe pour qu'on ne puisse pas atteindre Dieu par nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 1:27, il dit « Mais Dieu a choisi », voyez-vous ? Dieu prend la liberté de choisir, vous vous rendez compte ? Eh oui, parce qu'il est Dieu. Donc il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. L'être humain, bien sûr, il est attisé par un ennemi que de Dieu, hein, par Satan, qui veut corrompre la parole de Dieu. Satan veut corrompre ce que Dieu déclare. Et on a vu dimanche dernier Balaam, qui mélangeait la foi judaïque avec la divination, puisque c'était un devin, etc. Vous avez un autre cas de figure dans le Nouveau Testament qui s'appelle Nicolas, qui a fondé les Nicolaïtes, qu'on retrouve dans Apocalypse, où l'Esprit dit à Jean que c'est une abomination devant l'Éternel, les Nicolaïtes. Et Nicolas était un diacre, un des 7 diacres de l'église de Jérusalem. Imaginez, vous voyez. Donc, comme quoi les chrétiens, c'est pas parce que c'est marqué chrétien sur le front que ils ont la vérité. Hein. Voilà, donc il ne faut pas être naïf. Il faut, en toute chose, examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Ce problème de nature sur nature a voulu être résolu. Hein. Les théologiens de tout temps ont cherché à le résoudre. Donc on va mettre ici Dieu, sa grâce, ce qu'on appelle le surnaturel. Et ici, on va mettre l'homme, le naturel, voilà, qui, en fait, doivent être résolus. Voilà. Enfin, l'homme a cherché à résoudre. Alors qu'il n'y a rien à résoudre, il faut accepter le paradoxe. C'est ça qui est difficile, c'est que c'est contraire à notre raison d'accepter un paradoxe. Et ce paradoxe, on le retrouve, d'ailleurs je vous ai indiqué un livre que je vous recommande qui explique très bien ces paradoxes, qui est ce livre-là, Une nouvelle expérience de Dieu de Christian Schwartz, hein, qui explique ces paradoxes qui sont justement à l'origine de toutes les difficultés des chrétiens qui veulent, par la compréhension, résoudre ce paradoxe. Alors comment ça a été vécu ? Eh bien, il y a de ce côté-là l'histoire des mystiques. C'est par l'expérience. Par l'expérience, hein, donc l'expérience mystique. Hein, l'expérience mystique, c'est la recherche de l'union avec Dieu. On veut s'unir à Dieu. Donc l'expérience des mystiques. Donc ce côté-là a voulu résoudre ce paradoxe qui ne peut pas être résolu. Il faut l'accepter et le vivre avec. Et là, bien sûr, c'est l'Église catholique qui a cherché depuis 20 siècles et continue à chercher d'ailleurs. Et Henri Blocher l'explique que voilà, ils n'ont toujours pas trouvé, mais ils poursuivent leur réflexion en imaginant un tas de choses pour leur. Alors, le premier niveau qu'ils ont utilisé, c'est que là, c'est la raison autonome, et là, c'est la foi. Voilà. Et donc, pour chercher à atteindre le surnaturel, il cherche à résoudre cette équation raison-foi, ce qui d'ailleurs a été l'objet de la dernière encyclique du dernier pape qui a écrit Ratio et Fides, qui simplement est une refonte de ce que Thomas d'Aquin a écrit, parce que l'Église catholique est thomiste, et ils ont Thomas d'Aquin comme base, qui lui-même s'appuie sur Aristote, qui est un philosophe grec. Donc par la philosophie, il pense résoudre ce problème-là. On voit après le système catholique, il y a le système orthodoxe, qui va plus loin, hein, qui toujours, bien sûr, garde la foi, hein, mais qui ici, disons, va plus loin dans l'autonomie de la raison, hein, qui est de considérer que il y a quelque chose dans l'homme qui ressemble à Dieu et qui est divin. Donc ici, on va vers quelque chose qui est de Dieu en l'homme. Alors c'est vrai qu'on peut trouver ces éléments dans l'Écriture. Quand Paul dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Donc il y a quelque chose de vrai. Quand on reçoit Christ en nous. Mais comment est-ce qu'on peut matérialiser ce Christ en nous? Et donc l'idée, c'est de matérialiser quelque chose qui est présent dans l'homme quand on est chrétien, parce que c'est toujours en étant chrétien. Et donc, bien sûr, il faut la foi qui est irrationnelle, qui croit à ce que dit l'Écriture, mais il y a quelque chose en nous qui est divin. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle la théosis. Hein. Théosis, ça veut dire l'union avec Dieu. Théo, c'est Dieu. Et donc, toutes des techniques qui sont enseignées dans l'Église orthodoxe, qui font partie de la base de leur foi et qu'ils enseignent à leurs paroissiens, leurs fidèles. Seulement, si on continue ça, et ce qui a été fait, on tombe effectivement là, dans la mystique, qui là est la théosophie, donc la sagesse théosophie, qui, elle, établit effectivement une échelle qui permet de monter vers Dieu. Vous voyez que là, Dieu descend vers l'homme, et toutes ces notions religieuses mystiques, c'est pour monter vers Dieu. C'est l'échelle de Jacob qui est utilisée, où Jacob voyait, mais c'est les anges qui montaient, qui descendaient, et là, c'est l'homme qui veut monter vers Dieu. Donc tout ça, c'est l'histoire de la mystique. Et aujourd'hui encore, on est dans cette problématique de résoudre ce problème nature sur nature, hein, qui en fait n'est pas à résoudre, c'est simplement à l'accepter et le vivre. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les protestants? Les protestants, ils se sont construits contre le catholicisme. Et c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est que les protestants ont développé quelque chose qui est à l'inverse de ça, vous voyez, et qui a établi aussi un dualisme entre foi, non pas entre foi, entre grâce et péché. Que ce soit Luther ou que ce soit Calvin, ils ont réagi parce que c'est un combat éternel entre deux maîtres à penser, théologiens, qui est Augustin, saint Augustin. Calvin ne voyait que par Augustin, et enfin, la plupart des chrétiens, y compris catholiques, ont Augustin. Et ici, c'est Pélage. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est encore aujourd'hui un combat entre Augustin et Pélage, parce que Pélage a introduit la notion de vertu. On peut, par ses efforts, faire quelque chose pour Dieu, pour atteindre cette divinité. Et aujourd'hui, c'est Olivier vous en parlait savamment avec ce qu'il a vécu. Dans le potentiel humain, on utilise ces notions où on a la capacité de développer, c'est pélagien. Et là, bien sûr, il a été traité d'hérétique. Le protestantisme, bien sûr, traite d'hérétique. Alors, ils disent que les catholiques sont semi-pélagiens. Voilà, ils ne sont pas complètement pélagiens, parce que même aussi, on luttait contre Pélage. Bon. Mais il n'empêche qu'ils vont dans ce sens-là. Donc, Augustin, lui, c'était clair, c'est la grâce seule. Et du coup, ils sont allés trop loin, puisque les catholiques ont utilisé la raison. Ils ont dit que l'homme est incapable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire le péché l'a amené dans un avilissement total. Il ne peut plus rien faire. Donc il n'y a que la grâce. C'est pour ça qu'il y a les cinq soli. Sola gratia, sola fides, sola Christus, sola Dei, sola scriptura. Pour dire que l'homme n'est incapable de faire quoi que ce soit. Le problème, c'est que si on va dans ce sens-là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On va toujours naturellement dans ce sens-là ou naturellement dans ce sens-là quand on n'est pas en communion, en relation avec Dieu, ce que Michel a rappelé ce matin. Eh bien, on va vers un protestantisme libéral. Libéral, ça veut dire qu'ici, on va vers une liberté. Voilà. C'est-à-dire que la grâce, qui est la grâce de Dieu, qui est libre, bien sûr, d'aimer ou de ne pas aimer, enfin, il fait ce qu'il veut et on le respecte, et on est au dépens de la grâce de Dieu, eh bien, petit à petit, cette grâce devient liberté humaine. Donc, la liberté qu'on a aujourd'hui. Et ici, au lieu de dire l'homme est totalement dépravé et dans le péché, eh bien, on va vers une raison intellectuelle, hein, donc une spéculation. Donc, on revient vers une capacité de raisonner, parce qu'il faut quand même rester raisonnable, et de critiquer la Bible. Ce qui fait que le XIXe siècle, siècle du libéralisme protestant, bien sûr, on a dit la Bible, non, il ne faut pas la lire de manière littérale. Hein. C'est pas possible, parce que si on va vers ici, on va vers le littéralisme, c'est-à-dire prendre la Bible comme vraie en tout. C'est la position des évangéliques, hein, parce que là, c'est la position évangélique, que ce soit par là ou que ce soit par là. Hein. Ça, c'est la position d'évangile. Et vous voyez que l'évangile est quadruple. C'est-à-dire les quatre évangiles doivent être considérés comme la vérité qui constitue un paradoxe, hein, mais il faut l'accepter. Les quatre sont vrais et ils décrivent le ministère de Jésus de manière totalement différente, surtout si on prend Jean. Mais ici, on va vers le libéralisme. Et donc, au XIXe siècle, on est arrivé à ce que les protestants ont dit « Non, 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 Jésus, c'est un mythe. La résurrection, c'est un mythe. C'était pour encourager les chrétiens, mais ça n'a pas existé. » Vous voyez, avant, s'en prendre aux athées, c'est les protestants eux-mêmes. Et d'ailleurs, l'Église catholique a réagi. Il y a toujours une réaction catholique au protestantisme qui s'en va par là. Et donc, eux, ils ont dit « Ah, on va faire un concile, concile Vatican I, fin du XIXe siècle, où ils ont réaffirmé la résurrection de Jésus. Parce que, bon, ça allait trop loin. Donc, on essaie de garder un juste milieu, mais c'est toujours, vous voyez, difficulté, ce dilemme, ce paradoxe, la foi est paradoxale. C'est-à-dire qu'elle nous invite à croire en Dieu qui est tout-puissant, qui est grâce, mais qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes. Il faut accepter, et c'est pour ça qu'il faut entrer dans l'humilité pour l'accepter. Mais là, ce n'est pas l'humilité, là, c'est l'homme qui se glorifie, là, c'est l'homme qui se glorifie. Et donc, on arrive à la fin, eh bien, à une échelle aussi, on peut atteindre Dieu, par la connaissance, par le savoir scientifique, etc. C'est pour ça que les protestants libéraux qui vont dans ce sens-là, ils sont dans l'intellect, etc. Bon, ici, vous avez deviné les francs-maçons hein, qui sont là. Et ici, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix vont plus loin parce qu'ils utilisent la mystique, ils utilisent les sciences occultes, qui sont des sciences supérieures, bien sûr, aux sciences rationnelles, puisqu'elles expliquent le surnaturel. Ils expliquent tout l'aspect surnaturel, et ici on reste dans le naturel, bien que là, on se donne des maîtres. Donc ici, ce sont des maîtres, on devient des maîtres, et ici, on devient des illuminés. Voilà. Dans le mysticisme, on devient illuminé, c'est-à-dire qu'on est illuminé, et d'un seul coup, on est Dieu. Voilà un peu l'histoire de ce paradoxe qui oppose dans le christianisme eh bien, la vérité, qui est une vérité paradoxale, qui est une foi paradoxale, qui ne peut pas jamais résoudre le problème nature sur nature, mais qu'il faut résoudre par un paradoxe lui-même. Jésus a dit, si vous voulez être mes disciples, il faut prendre la croix. Et la croix, c'est un paradoxe. Il a dit, celui qui trouvera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ouais, c'est un paradoxe. Il faut trouver et perdre en même temps. Ce n'est pas la même vie, c'est une vie personnelle pour un échange contre la vie de Dieu. Vous voyez, c'est ce paradoxe. Et c'est l'objet de ce livre de Christian Schwarz qui l'explique bien, qui se trouve effectivement dans la nature que Dieu a créée. Donc ne cherchons pas à rentrer là-dedans, parce que nous serons avalés par le monstre qui aujourd'hui est encore présent dans les batailles entre les deux tendances, hein, les tendances intellectualistes et les tendances de l'expérience. Là, on cherche les choses par l'expérience, et là, on cherche les choses par l'intellect, par le savoir, par les connaissances. Et c'est là que je me suis aperçu que le quadrilatère wesleyen, qui n'a pas été inventé par Wesley, c'est 2 siècles plus tard hein, qu'un méthodiste a découvert que dans les 50 000 sermons de Wesley se trouvait cet enseignement, que dans ce paradoxe wesleyen, qui est la position théoriquement évangélique, mais les évangéliques, malheureusement, comme ils ne restent pas dans ce paradoxe, ils tombent où ? Dans le catholicisme ou dans le protestantisme libéral. Et ils n'ont pas d'autre choix. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent évangéliques, c'est parce que vous prenez le nom évangélique que vous êtes gardé. Vous êtes attiré par ces deux pôles, ici ou là. Donc ici, dans ce paradoxe, eh bien, il faut accepter que les Écritures hein, sont inspirées de Dieu. Et même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais si vous les prenez parce qu'elles sont vraies, eh bien, elles peuvent vous donner la foi qui sauve, parce que voilà, elles viennent de Dieu, le tout autre. Hein. Ici, les protestants libéraux ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils disent qu'il y a des aberrations, il y a des choses qu'il faut changer, etc. Parce que la raison dit que voilà, ça c'est pas possible, etc. Et ici, les catholiques et les charismatiques, enfin tous ceux qui sont dans ce qui est charismatique, ils disent ben, non, c'est mon expérience qui fait que j'ai besoin d'une explication à l'expérience, mais elle ne se trouve pas forcément dans l'écriture, donc voilà, j'ai une nouvelle révélation qui me permet d'expliquer l'expérience. Vous voyez, ici, on cherche à expliquer l'expérience, et ici, on cherche par la raison à expliquer l'écriture. Mais comme les deux ne sont pas possibles, il faut accepter que, eh bien, on a une expérience qui est soumise aux Écritures, une tradition qui est une transmission orale de ces expériences qui est soumise, et une raison qui est soumise. Pour moi, je dirais que la meilleure chose qu'on peut retenir de ça, c'est que il y a l'image de l'époux et de l'épouse. Ça, c'est une image que Paul prendra dans Éphésiens 5 en parlant du mariage. Et il compare l'Église à l'épouse, donc l'Église est naturelle, hein, mais elle doit accepter que l'époux puisse régner sur lui. Et là, il n'y a qu'un seul époux, il n'y a qu'une seule épouse. L'époux, lui, il initie. C'est le tout autre. C'est Christ qui, en mission de son Père, eh bien, cherche son épouse. L'épouse, elle, ne cherche pas à comprendre l'amour. Elle accepte l'amour. Donc on ne passe pas par la raison, on ne passe pas par l'intelligence, on ne passe pas par la compréhension. On sent l'être aimé et on l'aime. Donc ici, c'est l'initiative, là, c'est la réponse. Et c'est ce que Paul prendra dans Éphésiens 5 comme base du mariage, où le mariage doit ressembler à cette union entre l'époux et l'épouse. Et ici, je dirais que là, il faut voir cette expérience qu'on a besoin, cette expérience de l'émotion, de l'expérience de Dieu, de la présence de Dieu. C'est vrai qu'il faut non pas la rechercher, mais il faut l'expérimenter. Une expérience de Dieu, c'est absolument vital. Et dans le quadrataire wesleyen, c'est ce qui vivifie la foi. Et ici, ça doit être une tradition, mais une tradition qui est composée de cette soumission à l'écriture des bonnes choses, donc de tout ce qui a permis de confirmer l'écriture et non pas de la démolir, comme le font le libéralisme protestant, où finalement, s'il y a un mythe, deux mythes, trois mythes dans la Bible, quels sont les mythes? Où s'arrêtent les mythes? Où commence la réalité historique? Vous voyez. Et c'est pour ça que les évangéliques au 19e siècle ont dit « Attends, là, le protestantisme va trop loin. » On va aller sur le site archéologique, et on a commencé l'archéologie en Israël pour découvrir que ce que disait la Bible était vrai. Et non seulement était vrai, mais ils ont découvert des peuples comme les Hittites qui, d'après les historiens, n'existaient pas. Et ils ont découvert des choses que la Bible dit dans l'Ancien Testament qui existent. Et maintenant, c'est reconnu puisqu'ils ont découvert les vestiges des Hittites, par exemple. Donc ici l'expérience, ici une bonne tradition qui est une tradition évangélique de l'évangile qui maintient les choses dans à leur juste place. Alors aujourd'hui on est à la fin des temps, vous le savez, et dans la fin des temps il y a beaucoup de séducteurs, beaucoup de séductions, et je voudrais positionner là-dessus les trois types de rassemblements globaux, si vous voulez, dans ce paradoxe où on a ici l'époux, l'épouse, qui est le paradoxe du naturel et du surnaturel, Jésus étant l'époux, et nous sommes l'épouse, donc l'Église. Ici, une tradition, je dirais, évangélique, qui effectivement est protestante, parce que dans la relation grâce-péché, c'est plus juste, bien sûr, que la tradition qui est foi-raison, qui est l'encyclique, et puis tout le catéchisme catholique qui est basé là-dessus. Moi, je l'ai sorti, un truc épais comme ça, qui est tout basé là-dessus. Donc la tradition évangélique et l'expérience, je dirais charismatique. Charismatique, charisma, ça veut dire les dons qu'on reçoit du Saint-Esprit. Donc ça, c'est parfaitement évangélique. Aujourd'hui, à la fin des temps, Dieu est en train de rassembler son peuple pour la venue de Jésus. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes à la fin de la fin, sachant que la fin des temps, ça commence à la résurrection de Jésus. On rentre dans la fin, c'est cette ère qui est considérée la fin. Mais nous sommes dans la fin, avant le retour de Jésus, ne sachant pas exactement ni l'heure ni le jour, mais on est dans cette fin. Et donc il y a une tendance, et l'esprit aussi pousse, à faire des rassemblements pour prendre conscience de cette fin, sachant que l'ennemi de son côté aussi fait des rassemblements de son côté, pour préparer l'Antichrist. Donc ces rassemblements qui, au niveau américain, sont appelés globaux, global, nous on pourrait dire des rassemblements mondiaux, enfin mondial ou global. Et je crois que ça vient de Dieu. Là, il y a quelques semaines de ça, j'étais pas conscient de ça, mais le Seigneur m'a travaillé pour vous dire, effectivement, nous sommes dans ce temps-là et il faut y croire. Mais attention à effectivement rester dans la foi évangélique. Et il y a donc trois rassemblements. Un qui s'inspire de la tradition évangélique, qui s'appelle Global Mission. Un qui s'inspire de ça, qui est assez original, parce que moi, je n'avais pas vraiment pensé à ça. C'est le Global Gathering. Donc, c'est celui qui se fera à Jérusalem avec les trois personnes qui sont missionnées de l'Église et qui a eu lieu à Munich, Global Gathering, qui est le rassemblement, l'objectif. Alors là, je vous renvoie au site internet, hein, ce n'est pas moi qui vais déformer ce qui est écrit sur les sites. C'est le rassemblement de l'époux et de l'épouse hein, pour manifester. Et on l'a vu dans les temps de louange, hein, où effectivement ces danseurs extraordinaires sur scène utilisent ces matériels pour illustrer cette relation de l'époux et de l'épouse. Et quand on voit ces Chinois, quand on voit tous ces Coréens, toute cette église une parmi tous les peuples qui célèbrent l'épouse, on a déjà un avant-goût du ciel et ça permet effectivement de fortifier la foi dans cette conception de l'époux et de l'épouse, de ce paradoxe qui fait qu'on ne peut qu'admirer ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça que dans ces rassemblements, il n'y a aucun orateur. L'idée, c'est juste de rencontrer Jésus. Et chacun le rencontre en fonction de son cœur. Je sais que quand moi j'y suis allé, je ne savais pas du tout ce que c'était que ces rassemblements à Munich. Hein. J'étais un peu déboussolé, mais bon, comme j'ai un peu de bouteille, j'ai dit « Ouh, on va voir ». Mais les jeunes, comme par exemple Elsa ou d'autres, voilà, qui sont assez fougueuses, ont dit ben, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont réagi. Premier jour, ils ont dit « Mais on attend l'orateur ». Je dis « Non, il n'y aura pas d'orateur, c'est Jésus ». Donc tout le monde était déstabilisé, Sonia et autres et tout ça. Et on a dit, alors j'ai absolument voulu avoir un rendez-vous avec Marc Brisebois, qui est là dans les sentinelles pour les nations depuis longtemps. Et on l'a vu avec Fabienne Ponce le lendemain. Et là, Marc Brisebois a pu expliquer la vision de ces rassemblements-là. Et tout de suite après, on est retournés dans la grande assemblée. Et là, ils sont rentrés dedans, dans la louange. Parce que, vous voyez, la louange, ben là, on s'attend au bout de 10 minutes, ça suffit. Parce que quand vous louez pendant 3 heures, 4 heures, toute la journée, voilà, ou vous sortez, ou vous rentrez dedans. Mais vous n'avez pas de solution parce qu'il n'y a que 3 jours de ça. Voilà. Et donc, il faut entrer dans l'esprit de cette relation d'époux-épouse. Vous voyez, de rencontrer l'époux et simplement de l'adorer. Et simplement voilà, laisser voir les merveilles qu'il fait. Donc après, il y a des merveilles qui se sont passées de manière extraordinaire entre des peuples hein, qui spontanément se sont levés. Il y a un pasteur coréen qui dit « Moi, je suis jaloux, je veux aussi, moi, demander pardon au peuple japonais ou autre, etc. » Enfin, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées parce que, effectivement, il n'y a pas de directive, c'est juste l'esprit qui conduit l'épouse à vivre l'amour profond entre les peuples. Et ça, c'est une expérience. Bon, on a vu que cette expérience, vous la vivrez à Jérusalem aussi, et je souhaite à beaucoup d'en vivre d'autres, parce que c'est une vision, effectivement, qui est paradoxale, hein, qui ne rentre pas dans un schéma classique. Donc, on va attendre, on va discerner, on va voir si effectivement ça reste dans ce lien-là, parce que c'est fragile, hein, on tombe dans l'un ou dans l'autre. Hein. C'est fragile, mais ce n'est pas parce que c'est fragile qu'il ne faut pas tenter de l'expérimenter. Donc ça, c'est Global Gathering. J'ai découvert le Global Mission, je ne connaissais pas trop il y a quelques semaines, j'ai découvert sur Internet, qui en fait a été créé en 1974. Ça, c'est en 1970, par un pasteur qui s'appelle Bob Birch, qui est un Canadien de l'Ouest, un homme de prière. Toute sa vie, il a prié pour le Canada. Et ensuite, David Damien, qui est rentré dans cette vision, il a transféré cette vision à David Damien, qui est un Égyptien d'origine. Et enfin, il est toujours la double nationalité, égyptien-canadien, et qui est basé sur, effectivement, ce que je viens de dire. Ici, Global Mission, c'est écrit en 1974 à Lausanne, sous l'égide de Billy Graham, de John Stott et de Francis Schaeffer. Et aujourd'hui, celui qui préside ça, enfin le vice-président, c'est Timothy Keller, je crois que vous connaissez en Australie. C'est lui, Timothy Keller. J'ai vu sur YouTube la présentation, mais je n'ai pas eu le temps de vous la traduire, je vais vous la traduire, qui montre tout à fait dans quoi cette vision reste évangélique, vous voyez, elle ne franchit pas le Rubicon du libéralisme. Vous voyez déjà le type de personnes qui sont représentées. Et ce type-là, enfin cette Global Mission, c'est en fait notre vision EPEA. C'est la mission, c'est-à-dire établir des communautés différentes. Et il explique en gros que dans une communauté comme ici, il faut voir différentes communautés. Il faut voir la nôtre, une épiscopalienne, une presbytérienne, etc., voilà, qui sont bien sûr sur la parole, mais qui répondent à des sensibilités différentes de gens, quoi. On ne peut pas uniformiser. Voilà, donc établir des communautés, prier, prière, et évangéliser. Évangéliser dans le monde contemporain avec des messages qui sont cohérents et qui sont, comment dirais-je, up to date. Ils sont. Pardon ? Voilà, ils sont. Je cherche un autre mot. Actualisés. Voilà, qui répondent, si vous voulez. C'est, parce qu'on peut évangéliser en parlant des choses comme le XVIIe siècle, hein, mais on est dans notre XXIe siècle, il faut... moi, j'ai connu un évangéliste qui m'a toujours bluffé quand on était avec Michel à Paris, c'est... je ne retrouverai pas le nom. Qui était à Nation. Choquet, Alain Choquet. Tu connais ? Bah oui, choqué, j'ai jamais vu un évangéliste comme lui qui pouvait monter dans un amphi de fac. Il scotchait tout le monde. Bon, il a fait Sciences Po, vous me direz, il avait un bagage incroyable, mais un évangélique, il a fait l'expérience du Saint-Esprit, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, tout ça, mais il est resté. Mais il avait une capacité de. Un peu comme Billy Graham, quoi. Il est parti un peu trop tôt. Donc, ça, c'est la mission. Et là, je la recommande. On n'en fait pas partie. J'ai vu que pour aller dans ces global... Là, il y en a un à Berlin pour le 500e anniversaire de Luther. Mais ils mettent sur le site que c'est réservé à des membres. Donc, on ne peut pas y aller si on n'est pas introduit. Donc, je ne connais pas... Enfin, j'ai jamais été. Mais par contre, la charte de Lausanne, elle est fantastique. Elle est d'équilibre. Et je vais certainement la faire connaître dans les... groupe de maison pour que vous puissiez l'étudier, qui est quelque chose de très équilibré, qui justement essaye de rester dans ce paradoxe. Et il y a un autre gathering ici qui s'appelle The Call. Alors The Call, c'était fondé par Lou Engle, hein, aux États-Unis, qui est sorti de Kansas City et tout ça. Et là, je me suis aperçu que là, il franchissait le Rubicon. Hein, le Rubicon qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand danger. Alors, De Gaulle, il va s'associer avec France en Feu le 11 et 12 novembre, je crois, à Paris. Et malheureusement, l'association n'est pas très bonne parce qu'elle va dans le même sens que De Gaulle. C'est embrase nos cœurs. C'est Paris, tout est possible. Et France en feu, qui pour l'instant est équilibré, mais ici, non. Et qu'est-ce qu'ils font, ces trois ? J'étais consterné de voir Lou Engle qui s'est prosterné devant un représentant du Vatican qui était envoyé pour faire l'unité avec les pentecôtistes. Donc, vous voyez, il y avait effectivement un contentieux avec les protestants, je veux bien, à la réforme, mais pentecôtistes, voilà, est-ce qu'il faut vraiment s'affilier aux catholiques pour être un. Donc il y a une séduction énorme, hein, et on voit cette vidéo à Washington où il y a cette. Il faut savoir que là, en ce moment, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui passent au catholicisme. À cause de la Vierge Marie, bien sûr, qui, elle, est très, voilà, très naturelle, très dans la nature. Je sais que Jean-Marc Potenti et Jean Brunet sont atterré, enfin ça les a beaucoup marqués, de Richard Bauckmann, qui il y a quelques années, qui était totalement évangélique. Quand vous le voyez sur Internet, c'est un moine, quoi. C'est, quand il parle, c'est horrible. Complètement dédié à Marie. Et je sais que ça les a frappés. Parce que, encore, Jean Brunet nous a dit ils étaient partis en Afrique, et au moment du retour dans l'avion, Richard Bauckmann, il a changé. Il n'était plus le même, il était écossais, lui. Mais il ne pouvait plus lui parler, quoi. Il est parti complètement dans le mysticisme, vous voyez. Donc, Richard Bauckmann est totalement catholique, et maintenant, il cherche à amener des évangéliques au catholicisme. Et un autre qui est bien connu aussi en Suède, qui s'appelle, là je l'ai eu, Ulf Ekman. Ulf Ekman qui a influencé des jeunes en Suède et en Norvège de manière extraordinaire. Il est passé au catholicisme de la même manière par Marie. Voilà. Et je n'ai pas fait de recherche, s'il y en a d'autres, hein, mais ça me suffit déjà, pour montrer que, voyez-vous, le catholicisme, au travers de cette tendance au mysticisme, attire des gens qui m'aiment de très très grande pointure. Je sais que dans Embrase nos cœurs, j'ai eu des soupçons à un moment donné, parce qu'on a eu un combat spirituel ici en 98, et j'avais des chrétiens qui ici allaient embrasser nos cœurs, ils m'expliquaient ce qui se passait. C'était incroyable. Les chrétiens qui allaient là-bas, je ne vous dis pas, ils sont vraiment en grand danger, parce qu'ils imposent les mains et tout le monde. Et un jour, quand j'y suis allé, parce que j'étais obligé avec Marc Brisebois de l'amener pour voir quelqu'un, ben les trois dames qui m'ont accueilli, qui imposaient les mains, ils avaient ici le symbole de la Rose-Croix, très grand, hein, voilà, qui était affiché avec la pyramide et tout ça. Et c'était eux qui imposaient les mains. Alors, je ne vous dis pas ce qu'ils vous transfèrent, hein, comme démon, mais voilà. Et ça, c'est rentré parce que, effectivement, on accepte les catholiques dans les ministères qui vous imposent les mains. Et malheureusement, Paris, tout est possible, ben Carlos Payan est dans la même dynamique. Et j'hésite pas à le dire parce que on l'a vu il y a 10 ans, on a déjà vu qu'il partait dans ce chemin-là, et on l'a repris, Michel et moi. Michel a dit, mais écoute, moi, tu peux pas me taxer d'anticatholique, ça fait 20 ans que j'enseigne à Notre-Dame. Ben, il a écouté, mais il a fait ce qu'il veut. Vous voyez, quand vous commencez à donner l'autorité, et Lohengel, justement, il dit dans sa vidéo, que en fait, il veut travailler avec les catholiques. Moi, j'ai rien contre les catholiques. On a fait des expos bibles ensemble, mais sur la base des écritures, pas sur la base des ministères où on impose des mains. Vous voyez l'idée ? Dès que vous passez dans le domaine charismatique où on impose les mains, eh bien, vous tombez dans justement des pratiques qui vont dans ce sens-là. Donc, attention. Je dis pas il faut pas y aller, mais je dis faites attention. À qui vous impose les mains, qui fait quelque chose. Parce que c'est très vite fait. Hein, les frères africains en connaissent quelque chose. Hein, comment les choses se passent. Nous, on est très, voilà, très boy scout. Hein, on ne croit pas tout ça. Mais faites attention. Donc, quand vous allez dans certains rassemblements, ici, on est en discernement. Hein, on attend de voir. Hein, a priori, c'est bon. Moi, j'ai été à un gathering, mais voilà, c'est à voir. Ici, bon, on sait que c'est que ces évangéliques, parce que c'est plus intellectuel dans la mission. Hein. Mais bon, la mission, Dieu nous a demandé, hein, évangéliser le monde, etc. Et Billy Graham, on connaît ses pratiques. Voilà. Mais là, vous êtes effectivement dans cette dynamique, hein, qui effectivement veut toujours éviter ce paradoxe. Hein. Ce paradoxe, c'est de croire qu'effectivement, nous devons rester humbles. On ne cherche pas le surnaturel pour le surnaturel, puisque les Juifs ont demandé à Jésus, fais-nous des miracles. Il n'en a pas fait. Il ne fait pas les miracles sur commande. Voyez. Les miracles se font par la grâce de Dieu, par l'initiative de Dieu, quand il veut. Et nous sommes simplement à rechercher la communion. L'épouse doit chercher l'époux. À chercher, effectivement, à accomplir la mission auquel Dieu a dit... Jésus, quand il est parti, il a donné la mission évangéliser. Et ici, bien sûr, on a besoin d'expérience. Mais là, il faut mettre un garde-fou sérieux à notre expérience, parce que toute expérience n'est pas bonne. L'expérience, comme il est dit, elle doit être soumise au discernement, examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Amen. Et là, bon, il y aura toute une prédication à faire là-dessus, mais moi-même, je suis en train de la méditer au travers de ce colloque sur le surnaturel qui est très très riche, que Vaux-sur-Seine a fait il y a quelques années, pour comprendre ce qui est psychique, ce qui est spirituel, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, ce qui est, voilà. Il y a aussi tout un tas d'expériences qui sont mentionnées, qu'on ne sait pas bien interpréter. Donc là, c'est un domaine qu'il ne faut pas éviter, mais il faut être très prudent et équipé pour le service. Amen. Seigneur, donne-nous ta sagesse dans tous ces derniers temps où il y a un tel mélange. Seigneur, une telle volonté de l'ennemi de nous égarer, que tu nous gardes et que tu gardes ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions continuer à être ces témoins que tu veux que nous soyons, qui sommes, Seigneur, appuyés sur la vérité. Parce que, Seigneur, on ne peut pas faire Seigneur, d'unité au détriment de la vérité. Seigneur, c'est la vérité qui libère. Mais en même temps, Seigneur, c'est vrai que tu veux l'unité, mais pas à n'importe quel prix. Alors te demandons ta grâce, ton discernement, ton aide, afin que nous puissions demeurer en toi, comme toi tu demeures en nous.